France Culture.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis consacrés à Maya Angelou aujourd'hui. Poétesse, écrivaine, chanteuse, danseuse, activiste, impossible de faire le tour d'une vie qui en compte 10, mais deux publications récentes nous invitent à approcher sa poésie et sa biographie, ce que nous allons faire ce midi en compagnie d'Axel Janjiquet, qui signe la préface d'une nouvelle édition en français de Maman et moi et maman, publiée aux États-Unis en 2013, un an avant la mort de l'autrice, et de Santiago Artoski, qui traduit l'œuvre poétique de Maya Angelou pour les éditions Segers, récemment, « Rien ne me fera plier », recueil de 1990.
Vous avez dit que les mots forment les sensibilités.
Oui.
Et la première langue pour moi n'est pas anglais, c'est un américain, vous savez. Et il a me formé. En même temps, la langue américaine noire, c'est une autre langue, plus délicieuse, plus musicale. Et il aussi a me formé. Alors, je suis américaine noire, ou noire américaine, je ne sais pas.
Maya Angelou en 1980 sur France Inter, et nous voulions commencer avec elle, et avec elle parlant de la langue, de sa langue, pour entrer dans cette émission dont l'ambition est de la faire résonner. Bonjour Axel Janjiquet.
Bonjour.
Vous êtes autrice afropéenne, dramaturge, documentariste. Nous pouvons citer votre livre « Journal intime d'une féministe noire » entre parenthèses, paru en 2022 aux éditions du Diable Vauvert, et votre série documentaire « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé », réalisé avec Marie-Laure Ciboulet pour France Culture en 2021. Vous signez donc la préface d'une nouvelle édition révisée de Maman et moi et maman de Maya Angelou aux éditions Notabilia, dans une traduction de Claire et Louise Chabalier. Santiago Artoski, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes donc traducteur notamment de la poésie de Maya Angelou aux éditions Segers. Le recueil « Et pourtant je m'élève » paru en 2022. « Rien ne me fera plier » un peu avant l'été. Le prochain arrivera fin août, ma vie a viré au bleu. Alors évoquer sa langue, c'est évoquer sa voix. Et c'est d'abord ce qui vous a marqué quand vous avez découvert Maya Angelou à la télévision, sa voix, Axel Janjiquet.
Absolument, je suis une petite fille. Je suis arrivée en France depuis quelques mois. Et en fait, je la découvre à la faveur d'une série télé qui s'appelle Racine en français, Roots en anglais, dans laquelle elle campe la grand-mère du héros qui est Kunta Kinte. Et elle est magistrale, imposante, et elle a cette voix, c'est qui est juste indéfinissable et qui résonne au niveau vibratoire très très fort chez moi. Et j'ai l'impression de reconnaître quelqu'un, et je vais savoir par la suite qu'elle ressemble, voilà, à des membres de ma famille du côté des doyennes. Et Maya Angelou, la première empreinte pour moi, oui, c'est cette voix, et qu'on a pu entendre là, qui est vraiment vraiment particulière.
Absolument. Donc, cette voix qui vous accroche, ensuite vous allez la lire et vous allez commencer par « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». Premier volume de son cycle autobiographique, c'est son premier livre tout court d'ailleurs, publié aux États-Unis en 1969. Elle a alors 41 ans.
Oui, c'est une late bloomer, comme on dit dans les expressions à la mode. Mais alors, mais quelle late bloomer. Elle s'y consacre un an après l'assassinat de Martin Luther King. Elle a passé une année très difficile suite à ça. Et ce qui va éclore de ça, bah, c'est cet ouvrage qui est classé quand même parmi au cinquième rang des 10 meilleures œuvres de non-fiction par le Time de toute l'histoire. Mmh. Et c'est un essai, pour un coup d'essai, il est magistral. Et c'est un ouvrage qui aujourd'hui encore sert beaucoup, notamment aux personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance, parce qu'elle est aussi pionnière en la matière. C'est la première à aborder cette question-là,
et oui, parce
de la manière dont elle le fait.
Elle y parle notamment de sa voix et de comment elle l'a perdue.
Et comment elle l'a perdue, et comment comment ça a pu marquer aussi son parcours d'enfant, d'adolescente et de jeune femme, mais sans s'apesantir non plus. C'est très, il y a quelque chose de très particulier chez Maya Angelou, c'est que les épreuves de la vie sont là, mais elle tâche de donner des ressources pour les traverser à ses lecteurs. Et elle ne minimise rien, mais il y a quelque chose d'un irréductible soleil, enfin quelque chose de solaire en elle qui fait que vous avez envie de chercher à votre tour ce qu'il peut y avoir de solaire en vous-même.
Alors pour dire de quoi il est question donc dans ce livre-là, et d'ailleurs elle en reparle ensuite dans tous ses livres, y compris dans Maman et moi et Maman, là je cite un extrait de cet ouvrage-là. Donc elle est petite, elle est élevée par sa grand-mère, on y reviendra, à un moment donné elle va à Saint-Louis. Et donc là je cite, « La visite à Saint-Louis fut de courte durée, mais là-bas je fus violée, et le violeur fut tué. Je pensais avoir causé sa mort en révélant son nom à la famille. Rongée par la culpabilité, je cessais de parler sauf à Bailey. J'en étais venue à la conclusion que ma voix était si puissante qu'elle pouvait tuer des gens, mais qu'elle ne pourrait pas faire de mal à mon frère, étant donné la force de l'amour que nous nous portions. »
Il y avait une dame en ville, Mrs. Flowers, et elle me prenait chez elle. Elle faisait de la limonade et des gâteaux délicieux. Elle savait que je ne parlais pas, et elle me lisait les poètes. Elle a fait ça pour moi pendant 3 ou 4 ans. Un jour, j'étais chez elle et elle m'a dit, « Maya, tu n'aimes pas la poésie. Tu ne l'aimeras jamais tant que tu ne la diras pas, tant que tu ne la sentiras pas sur ta langue, sur tes dents, à travers tes lèvres. Tu ne l'aimeras jamais. » Et un jour, je suis allée sous la maison, là où on mettait les poules. La terre était douce, comme de la poudre. Et je me suis essayée à la poésie.
Now, to show you how out of evil there can come good.
Du pire peut sortir le meilleur.
In those 5 years, I read every book.
Au cours de ces 5 années, j'avais lu tous les livres de la bibliothèque noire.
I read all the books I could get.
J'avais lu tous les livres auxquels j'avais pu accéder de la littérature blanche. J'ai mémorisé James Weldon Johnson, Paul Lawrence Dunbar, County Cullen et Langston Hughes. J'ai mémorisé Shakespeare, des pièces entières. J'ai mémorisé Edgar Allan Poe, toute la poésie.
Longfellow,
Guy de Maupassant,
Balzac.
Et quand j'ai décidé de parler, j'avais beaucoup à dire.
C'est une archive tirée du documentaire « Toute une vie consacrée à Maya Angelou » et signée Anaïs Quin et Yvon Croisier. Beaucoup à dire, puis à écrire. Ça commence donc avec ce premier ouvrage autobiographique « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». 6 autres vont suivre jusqu'à ce « Maman et moi et maman » auquel nous allons revenir. Et c'est entre ces ouvrages autobiographiques qu'elle va publier ses recueils de poèmes. Santiago Artoski, le premier, arrive en 1971.
Oui, le premier, il arrive juste après le premier tome de son autobiographie. Et c'est pareil, elle est totalement bénie des dieux parce que son autobiographie fait un tabac. Et dès son premier recueil de poèmes, il est nommé sur la liste du Pulitzer Poésie. Et ça a du succès. Et surtout, ça a un impact, au-delà d'un succès commercial, ça a un impact dans l'imaginaire des gens. Elle n'est pas encore au stade qu'elle, enfin, elle n'a pas encore le statut qu'elle aura une 20aine ou une 30aine d'années plus tard. Mais on sent déjà quand même très fortement les prémices de ça, quoi. Elle a un très fort impact.
Alors, tout ça donc arrive à plus de 40 ans pour elle. Il faut dire qu'avant, elle doit vivre et elle doit réaliser qu'elle peut devenir quelqu'un. Et c'est ça qu'on lit dans Maman et moi et maman, qu'elle publie un an avant sa mort. Elle a donc alors 84-85 ans. Ce livre, en quelque sorte, c'est une manière de reparcourir cette vie qu'elle a déjà racontée, mais par le prisme de sa relation à sa mère, Axel Janjiké.
Oui, il faut savoir que ce livre, elle l'entame au décès de sa mère en 1991. C'est probablement l'ouvrage qu'elle a mis le plus de temps à écrire, parce que c'est
presque une vingtaine d'années.
Ouais, seulement. Absolument. Mm. Et mais je pense que ça dénote aussi de l'importance qu'avait cet ouvrage pour elle. Et c'est un ouvrage qui ressemble à une boucle qui se boucle, puisque on est à l'origine de l'histoire, et l'origine de l'histoire pour elle, c'est cette mère. Elle n'a jamais eu de cesse de dire qu'il y avait deux personnes qui l'avaient constituée, sa grand-mère, qui l'éduque quand elle est enfant, et sa mère. Et c'est vraiment ce qu'on découvre dans cet ouvrage-là, qui revient, voilà, à la faveur de cette relation-là, sur tout le parcours affectif, relationnel, voire sexuelle, de Maya Angelou et également de sa mère.
Parce que donc, ça avait très mal commencé avec sa mère, puisque donc, lorsqu'elle a 3 ans, Maya Angelou, qui s'appelle à l'époque Margaret Johnson, est envoyée avec son frère aîné, Bailey, donc chez sa grand-mère paternelle, en Arkansas, dans le sud ségrégationniste. Nous sommes dans les années 30, hein, et c'est seulement à 13 ans qu'elle va retrouver sa mère en Californie avec son frère, et lorsqu'elle la retrouve, elle lui en veut terriblement. Elle refuse d'ailleurs au début de l'appeler maman.
Elle refuse de l'appeler maman parce que c'est, elle la considère pas comme telle. Elle n'était pas présente, hormis l'épisode dramatique, voilà, qu'il y a eu à Saint-Louis où, face au mutisme dans lequel, voilà, s'enferme Maya suite à l'agression, les adultes autour se sentent coupables, donc ils trouvent rien de mieux que de la re-renvoyer à Snaps, chez la grand-mère. Donc il y a un peu, voilà, il y a un petit grief quand même. Pour une juste raison, et elle est, ils se retrouvent à retrouver la mère en Californie, elle a déménagé entre temps de Saint-Louis, parce que dans le sud, ça devient dangereux pour le frère de Maya, Bailey, d'être un garçon noir à cette époque-là, et il est, Bailey est un gamin qui a pas sa langue dans sa poche, et qui, là où nous on se dirait, il a du répondant, il est un peu drôle, caustique, tout ça, ça pourrait lui valoir, sa vie. Et la grand-mère ainsi que la mère de Maya prennent la décision de rapatrier des enfants en fait en Californie, mais vraiment pour des raisons de sécurité. Mmh. Et c'est à la faveur de ça effectivement que Maya se retrouve face à Viviane. Mais on sent aussi dès la première rencontre qu'elle est
subjuguée d'une certaine manière.
Subjuguée par la mère, mais en même temps, comment ne pas être subjuguée par Viviane.
Viviane Baxter, donc c'est le nom de la mère de Maya Angelou. « Je n'étais pas prête à être une mère », explique Viviane à ses enfants lorsque le frère de Maya demande pourquoi elle les a abandonnés. « Je ne vous présente pas d'excuses, je vous explique la situation », dit-elle. Mais à partir du moment où elle va devenir mère, elle va vraiment l'être. Et il y a ce moment déterminant, c'est à la fin de la première partie du livre, où Maya Angelou tombe enceinte. Elle a 17 ans, elle a fait l'amour une fois avec un garçon qu'elle n'aime pas, qui ne l'aime pas et qui ne sera jamais un père. Elle craint la réaction de sa mère, mais celle-ci ne va pas la réprimander, elle va même la soutenir, l'accompagner jusqu'à l'accouchement. Et vous allez nous lire le passage qui suit cet accouchement, Axel Djendjike.
Je pensais à ma mère et je sus qu'elle était extraordinaire. Jamais elle ne m'avait fait me sentir une honte pour la famille. Ma grossesse n'avait pas été planifiée et en ce qui concernait mon éducation, j'allais devoir réévaluer mes projets. Mais ça, pour Viviane Baxter, c'était la vie. Ce n'était pas une erreur, une faute d'avoir un enfant sans être mariée. C'était juste un peu un commando. Je me trouvais du travail quand mon fils fut âgé de 2 mois. J'allais voir ma mère et lui annonçais « Maman, je vais déménager. Tu vas quitter ma maison ?» Elle était abasourdie que je veuille quitter sa belle maison et tout son confort. Oui, j'ai trouvé un emploi et une chambre avec cuisine commune au bout du couloir et la logeuse sera la babysitter. Elle me regarda d'un air où se mêlaient la pitié et la fierté. « D'accord, pars si tu veux, mais souviens-toi, quand tu franchiras le seuil de ma porte, que tu as été élevée. Avec ce que tu as appris de ta grand-mère Anderson en Arkansas et ce que tu as appris de moi, tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Agis correctement. Ne laisse personne te faire dévier de la façon dont tu as été élevé. Sache que tu devras toujours faire des compromis, que ce soit dans tes relations amoureuses, avec tes amis, dans la société ou au travail, mais ne laisse personne te faire changer d'idée. Et souviens-toi également de ceci. Tu peux toujours revenir à la maison. Je remontai à l'étage et c'est seulement une fois dans ma chambre que j'entendis mes propres mots résonner dans ma tête. J'avais appelé Lady, maman. Je savais qu'elle l'avait remarqué. mais nous n'avons jamais, ni l'une ni l'autre, fait allusion à l'incident. J'ai été consciente que, après la naissance de mon fils, puis ma décision de déménager et de trouver un logement à nous, je voyais Viviane Baxter comme une mère, ma mère. Parfois, par habitude, je l'appelais encore Lady, mais en raison de son attitude envers moi et de l'amour qu'elle portait à mon fils, elle méritait pleinement d'être appelée maman. Le jour où je quittais sa maison, maman me libéra en me faisant savoir qu'elle était de mon côté. Je me rendis compte qu'elle m'était devenue proche et qu'elle m'avait libérée. Elle m'avait libérée d'une société qui aurait voulu que je me voie comme la plus inférieure des inférieurs. Elle m'avait libérée pour que je puisse vivre ma vie. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours saisi la vie à bras-le-corps en disant « Allons-y ».
Merci beaucoup Axelle Janziquet. Alors, il y a clairement quelque chose qui se joue de très important dans ce moment, on l'entend. Et lorsqu'on lit ça, qu'on entend ça, Santiago Artoski, on a presque l'impression d'y trouver un peu d'un poème très connu que vous avez déjà traduit dans l'avant-dernier recueil publié chez Segers. C'est pourtant « Je m'élève, still I rise ». C'est ça qu'il dit dans ce « Allons-y » de la fin.
Oui, mais c'est quelque chose en fait qu'elle va dire tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, c'est dans « Maman et moi et maman », Elle raconte une anecdote qu'elle a racontée par la suite très souvent dans des interviews, et c'est l'histoire de son premier travail, comment elle a eu son premier travail à San Francisco quand elle a 16 ans. Et donc, en fait, pour des raisons complètement prosaïques, un jour, elle se balade et elle voit les receveuses de tramway, et elle flash sur ses uniformes, et elle se dit « Moi, j'aimerais bien voir cet uniforme ». Et donc, elle postule au job. Évidemment, elle est refusée, elle rentre chez elle et elle dit à sa mère, voilà, j'ai voulu faire ça, mais j'ai été refusée. Sa mère lui dit, mais pourquoi? Et donc, Maya dit, bah, parce que je suis noire. Et sa mère lui dit, ok, bah, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas y aller tous les jours. Et comme ça, elle y va tous les jours. Et au bout de 15 jours, un type finit par la recevoir et lui demande, mais pourquoi vous voulez autant ce boulot? Et elle lui répond, mais parce que j'aime bien les uniformes.
Et quand elle raconte. Et j'aime les gens.
Et quand elle raconte cette histoire 70 ans après, elle est encore morte de rire, quoi. Mm. Mais en revanche, elle dit aussi qu'en fait, parce que l'intervieweur lui demande, mais pourquoi? Et elle lui dit, mais c'est parce que j'avais tellement peur que ma mère considère que je n'étais pas forte si je revenais, que je préférais rester là-bas toute la journée pendant 15 jours. Et donc, elle a eu son boulot. With your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just 'cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise.
C'est le début du poème Still I Rise, lu par Maya Angelou. Tu peux me faire passer à l'histoire avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière, mais comme elle, je me soulèverai. Mon exubérance t'irrite-t-elle, la tristesse te gagne. Pourquoi? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi. Tout comme les lunes et les soleils, aussi sûrs que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours je m'élèverai. Ça, c'est le début de votre traduction, Santiago Artoski. Le recueil, et pourtant je m'élève, a été publié par Segers en 2022 aux États-Unis en 1978. Celui qui est sorti avant l'été, Rien ne me fera plier, I shall not be moved, date lui de 1990. Comment la poésie de Maya Angelou évolue-t-elle entre ces deux recueils?
Eh bien, elle a tendance à être un peu plus apaisé, je dirais, un peu moins feu d'artifice. Dans les premiers recueils, elle part dans tous les sens, elle est vraiment exubérante dans sa manière d'écrire, mais aussi dans ses références, elle va passer du potache au baroque, au religieux, de manière un peu comme ça, au feeling. Mm. Et enfin, c'est des opinions personnelles, ouais. Hein, évidemment, mais moi je trouve que sur justement « I shall not be moved », elle est beaucoup plus tranquille, elle est beaucoup moins dans l'effet de manche, elle est beaucoup plus dans... Elle est toujours autant dans j'ai des trucs à dire et des choses qui sont parfois violentes à dire. Mais elle le fait d'une manière avec peut-être plus de bienveillance, je sais pas, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, quoi.
Est-ce qu'on peut entendre des résonances entre le Still I Rise et ce I Shall Not Be Moved?
Oh oui, oui, oui. De toute façon, il y a une très, très grosse cohérence dans son œuvre. Et notamment, d'ailleurs, l'extrait que vous avez passé en ouverture de l'émission est révélateur de ça. Il parle des langues et il parle de langues au pluriel. Parce qu'elle, elle manie plusieurs langues. Elle manie l'anglais classique shakespearien. Elle manie l'anglais vernaculaire de tous les jours. Et elle manie aussi la langue, le parler noir du Sud. Et c'est trois langues vraiment différentes et même trois approches différentes de la langue. Et elle joue avec les trois.
Ce refrain « Rien ne me fera plier, I shall not be moved » dont on le trouve dans un poème intitulé « Nos grands-mères ». Et nous allons en entendre la première partie dans votre traduction, Santiago Artoski, lu ici par Nina Gandara.
Elle était allongée, la peau dans la terre humide, les bouquets de joncs bruissaient, du murmure des feuilles, des hurlements des chiens et du saccage des chasseurs qui faisaient craquer les branches toutes proches. Elle murmurait, redressant la tête pour saluer la liberté, « Rien, non, rien ne me fera plier. » Elle rassembla ses bébés, leurs larmes grasses comme de l'huile sur des visages noirs, leurs jeunes yeux sondant des matins de démence. « Maman, le maître va-t-il te vendre loin de nous demain ?»« Oui, à moins que vous marchiez plus et que vous parliez moins. »« Oui, à moins que le gardien de nos vies me libère de tous les commandements. »« Oui, et vos vies, qu'il ne me revient pas de vivre, seront exécutées sur l'aire d'abattage des innocents. »« À moins que nos cœurs et nos paroles s'accordent et que, comme moi, vous disiez « Rien ne me fera plier. » Dans les champs de tabac de Virginie, penchés sur la courbe de Piano Steinway, le long des routes de l'Arkansas, sur les collines rouges de Géorgie, dans les paumes de ses mains enchaînées, elle criait contre le désastre « Tu as tenté de me détruire et, bien que je meure au quotidien, rien ne me fera plier. » Son univers, souvent, réduit à un corps noir qui finit par tomber d'un arbre à ses pieds, la faisait pleurer chaque fois d'une nouvelle voix. Tout mon passé se hâte vers la défaite, et des inconnus réclament la gloire de mon amour. L'iniquité m'a liée à son lit, pourtant, rien ne doit me faire plier. Elle avait entendu les noms, rubans tourbillonnant dans le vent de l'histoire. Négresse, salope de nègre, grosse vache, mama, marchandise, créature, singe, babouine, putain, chaudasse, chose, ça. Elle disait, mais ma description ne peut loger dans ta langue, car j'ai une façon d'être en ce monde, et rien, non rien ne me fera plier. Aucun ange n'a déployé ses ailes protectrices au-dessus de la tête de ses enfants, les battant pour conjurer les vents de la raison sur la confusion de leur vie. Ils poussaient comme de jeunes herbes, mais elles ne pouvaient protéger leur croissance des lames grinçantes de l'ignorance, ni les façonner en taupières symboliques. Elle les a envoyées au loin, sous terre, par les routes, dans des wagons et sans chaussures. Quand vous apprenez, enseignez. Quand vous recevez, donnez. Quant à moi, rien ne me fera plier. Elle était en plein océan à la recherche d'une terre. Elle scrutait le visage de Dieu. Confiante, elle posait la flamme de son service sur l'autel et bien que vêtue des atours de la foi, lorsqu'elle se présentait à la porte du temple, aucune enseigne n'accueillait la grand-mère noire. Entre là. Dans le fracas des sons, face à la turpitude, elle criait « Pas une, non, ni même un million d'âmes n'oseront me dénier Dieu. » J'avance seule, debout comme si nous étions 10 000.
Et ça ne s'arrête pas là, il faut lire le recueil pour avoir la suite. Alors, Bien sûr, Santiago Artowski comme traducteur, il y a mille défis, on imagine. Mais peut-être avant tout cette question du rythme, de la musicalité si importante dans cette langue.
Oui, oui, et pour moi c'est extrêmement important, mais je suis convaincu que pour elle ça l'était aussi, parce que elle a beaucoup parlé de blues dans sa vie, et on sent cette influence-là qui est très forte, pas simplement dans la métrique, mais aussi dans l'approche. C'est-à-dire que le blues, en gros, historiquement, c'est on vit des situations difficiles, mais on les considère avec humour. Et on chante ça en 3-4 lignes, avec une punchline à la fin. Et en fait, tu retrouves cette structure-là dans ses poèmes. Ça parle de choses très dures, d'esclavage, d'enfants morts, de battus. Mais il y a toujours une métrique, des échos, et quelque chose de très simple qui fait que ça imprime. Il y a des refrains. Et donc, c'est très important quand on le traduit d'arriver à restituer ça, quoi, en fait.
D'ailleurs, je crois que vous dites, vous la lisez évidemment énormément, mais vous l'écoutez aussi.
Oui.
Pour traduire.
Oui, 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 oui. Et je lis aussi mes traductions à voix haute systématiquement des dizaines de fois pour essayer de retrouver ça. On retrouve jamais parfaitement, hein, on est d'accord. Mais essayer de restituer quelque chose qui évoque ça.
La mélopée. La mélopée qui est dans sa voix. Mmh. Il y a vraiment ça.
Oui.
Alors, on va l'écouter, tiens.
The candy store, telling fortunes behind the door. The cops grabbed Mo, and as Joe ran out, Brother Mo, he began to shout, "Run, Joe, hey, the man's at the door, run, Joe, the man, he won't let me go, run, Joe, run, Joe, as fast as you can, run, Joe, this police holding me high." Take me before the sarge, I am going to deny the charge. When the judge asks me how I plead, not guilty, judge, most decidedly. You can see, judge, at a glance, I'm just the victim of circumstance. Run, Joe, while the man's at the door, run, Joe, the man, he won't let me go, run, Joe, run, Joe, as fast as you can, run, Joe, this police holding me hand. Ain't your mama done told ya? Ain't she done scold ya and scold ya? Ain't she done warned ya before, Joe? If they catch you, you run, Joe. Run, Joe, run, Joe, run, Joe, run, Joe. Oh, those police gonna catch up with Joe. Joe, run too slow.
Run Joe, Maya Angelou sur l'album Miss Calypso qu'elle a enregistré en 1957. Elle a fait ça aussi 12 ans avant de publier son premier livre. Et elle en parle de comment ça a commencé cette carrière de chanteuse d'ailleurs dans Maman et moi et maman, Axel Jeanne Jiquet.
Un peu par hasard. Mmh. Il faut savoir qu'elle écrit les paroles. Elle se construit totalement ce personnage de Miss Calypso. Et elle est la première, je crois, surprise par le succès.
Son succès, ouais.
Absolument. Et c'est quelque chose qui est très... qui montre vraiment qui était Maya Angelou. C'est qu'elle est pleine de ressources. Et elle est d'une humilité folle aussi. Parce qu'elle aurait pu être totalement submergée par une certaine suffisance et d'y être arrivée. Mais elle est à chaque fois la première étonnée par le succès qu'elle remporte. Et ça, c'est vraiment une preuve d'humilité, je pense.
La réalité, voilà, toujours, c'est aussi que Maya Angelou est une mère célibataire noire qui doit gagner sa vie. Ses mille vies, elle s'explique aussi comme ça. Ensuite, elle sera engagée pour jouer, chanter dans Porgy and Bess et partira en tournée. On continue à en parler, Axel Jeanne Jiquet, Santiago Artowski, après le journal qui va arriver, donc la suite de cette discussion autour de Maya Angelou.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Les midis, aujourd'hui consacrés à la poétesse, écrivaine, chanteuse, danseuse, activiste Maya Angelou, à l'occasion de deux publications récentes, Maman et moi et maman, dernier volume de son cycle autobiographique paru aux États-Unis en 2013, un an avant sa mort, et dont les éditions Notabilia publient une nouvelle édition révisée que vous préfacez, Axel Janjiquet, et Rien ne me fera plier, recueil de poésie, publié aux États-Unis en 1990, et il y a quelques mois en version bilingue par les éditions Seger, c'est que vous traduisez Santiago Artoski. Alors juste avant le journal, nous évoquions la carrière de chanteuse de Maya Angelou, on l'a entendu, Miss Calypso, ensuite la tournée avec Porgy and Bess. C'est le seul moment où elle laisse son fils, en tout cas tant qu'il est petit, pendant quelques mois, et ça la travaille énormément,
ça la bouleverse.
Et quand elle revient, elle est très angoissée, et elle est très angoissée parce qu'en fait, la question, elle l'écrit noir sur blanc, qu'elle se pose, c'est comment élever un garçon heureux, noir, oui, dans une société raciste.
Et elle est à ce point bouleversée par la question qu'elle frôle la folie. Elle se fait, elle va de son plein gré consulter un psychiatre, et simplement le psychiatre est blanc, et elle arrive à la conclusion d'elle-même que ça va être compliqué de lui expliquer à quel endroit, enfin le point de vue situé qui est le sien et ce que ça peut engendrer, et c'est un passage qui est bouleversant parce qu'il rassemble à la fois le politique et l'intime, et on ne peut que se sentir submergé en tant que parent en lisant ce passage-là, parce que c'est l'une des rares fois où on la sent impuissante, en fait. Et elle fait quand même, elle a la grâce de partager avec nous cette impuissance-là aussi, en disant, elle est aussi faite de ça. Maya Angelou, elle a aussi cette vulnérabilité-là, c'est aussi un être humain. Et c'est pas juste une dame qui a l'air très forte et très résiliente et tout ça. En fait, il y a des endroits où elle a failli s'effriter. Et ça, c'est un des moments, absolument bouleversants de cet ouvrage.
Et quand on le lit, on repense à ce qui est raconté un peu plus tôt, et vous en parliez dans la première partie, ce moment où en fait Maya Angelou et son frère sont renvoyés auprès de leur mère en Californie parce que ça devient dangereux. Pour lui en particulier, qui est un garçon, de vivre dans le Sud.
Elle l'écrit dans Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. C'est une petite phrase qui dit « À Stamps, les événements marquants étaient en général négatifs, sécheresse, inondation, lynchage et décès. » Voilà, on est dans cette Amérique-là, elle existe, et il faut savoir que sa grand-mère, Annie Anderson, est mère d'un fils qui est infirme, et elle raconte également dans ce premier recueil que lorsqu'il y a des raids de la part du Ku Klux Klan, en fait, dans la maison, il y a un coffre dans lequel est caché ce fils adulte, pour que si jamais, au cours de ces raids, les membres du Ku Klux Klan voulaient rentrer dans la maison, ils ne le trouvent pas, parce qu'il serait susceptible de le tuer, parce qu'il est noir, parce qu'il est infirme, et parce qu'on est dans le sud des États-Unis. Donc elle est petite, elle est pétrie de cette ambiance-là, elle est extrêmement consciente de sa couleur de peau, Maya, et en fait, avec ses yeux d'enfant, elle va très très vite déceler les injustices, parce que le magasin général que tient sa grand-mère a la particularité d'accueillir et les personnes noires et les personnes blanches. Et à l'échelle déjà du magasin, elle peut être témoin des injustices qui ont lieu au quotidien dans la manière dont on s'adresse à sa grand-mère, dans la manière dont celle-ci peut apporter son aide à des membres de la communauté qui lui tourneront ensuite le dos quand elle, à son tour, voudra demander des services. Et en fait, toute petite, elle est, elle a cette conscience-là.
Comment élever un garçon noir heureux dans une société raciste? Donc, cette question terrible qu'elle se pose, évidemment, sa poésie est empreinte de tout ça. Vous l'avez déjà dit un peu plus tôt, Santiago Artoski. Il y a un poème, là, dans le dernier recueil que vous avez traduit, Rien ne me fera plier, qui s'appelle Pourquoi sont-ils des gens heureux? Why are they happy people? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que dit ce poème et comment, voilà, comment vous l'avez rendu? Et je vous laisse choisir si vous le lisez d'abord et que vous nous en parlez après ou l'inverse.
C'est je vais le lire voulez. D'abord. D'accord. C'est mieux comme ça, les gens, ils l'auront en tête. Why are they happy people? Skin back your teeth, damn you. Wiggle your ears. Laugh while the years race down your face. Pull up your cheeks, black boy, wrinkle your nose, green as your toes, spade up your grave. Roll those big eyes, black girl, rubber your knees, smile when the trees bend with your kin.
Alors,
donc, alors ce poème, en fait, le titre, ça veut dire « Pourquoi sont-ils des gens heureux ?» Et il joue sur le paradoxe entre... Enfin, il parle des Noirs, évidemment, et il joue sur le paradoxe que les Noirs, malgré tous les malheurs qui leur arrivent, arrivent à rire et à trouver des moments de bonheur. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le blues, cette approche-là. On vit des trucs difficiles, mais on y trouve du bonheur. Et on trouve ça, d'ailleurs, pour généraliser un peu, chez pas mal de personnes opprimées. On parle souvent de l'humour juif, par exemple. Ils sont très drôles. Quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne, par exemple, c'est à mourir de rire. Bah, c'est un peu le même phénomène. On parle de choses très, très graves, mais on essaie de dire ça comme ça. Et donc, ce poème parle de ça, mais en même temps, comme très souvent chez Maya Angelou, il y a des sous-textes, il y a des réseaux de sens, il y a des choses qui sont beaucoup plus sérieuses que ça. Et là, par exemple, dans celui-là, il y a ces trois mots, race, spade et bend, qui sont à chaque fois le quatrième vers de chaque strophe, qui sont tout seuls et qui forment une colonne vertébrale de ce poème. Ces trois mots qui veulent dire race, spade, qui veut dire en fait négro, même si dans la grammaire du texte, c'est un verbe, mais on comprend ça, et bend, qui veut dire ployer, quoi. Et donc, elle entremêle quelque chose de formel, de très dur, avec quelque chose de marrant, enfin, de marrant. Description marrante, parce que la chose qu'elle décrit, elle est pas drôle.
Marrant du tout, oui.
Mais donc voilà. Et c'est très caractéristique de Maya Angelou, cette espèce de multiplicité de couches dans le discours.
Axel Janjike, on pense aussi à ce que sa mère lui dit assez vite quand elle le retrouve. Elle lui dit, les seules choses que je suis obligée de faire, c'est de rester noire et de mourir. La manière dont on ne plie pas, dont on s'élève, dont on est heureux et noir, ça n'est pas précisément une espèce de résilience. C'est quand même autre chose que ça. C'est un état de vie, en fait.
Ben, c'est quelque chose d'invincible en elle. Et c'est quelque chose qu'elle tient aussi de l'invincibilité de sa grand-mère, qui s'est transmis aussi à sa mère. C'est quelque chose qui est presque intrinsèque, en fait, chez Maya Angelou. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle est peut-être en mesure de créer l'œuvre qu'elle peut créer, parce que ça vient d'un endroit qui est presque auquel on n'aurait même pas pu penser qu'elle pourrait avoir accès avec toutes les épreuves qu'elle traverse dans cette vie, quoi.
Et de l'importance de ne pas faire de Maya Angelou une figure lisse, comme l'écrit Honora Miano dans la préface du recueil « Rien ne me fera plier ». On rappelle qu'elle a combattu aux côtés de Malcolm X, qu'elle a travaillé avec Martin Luther King, qu'elle a vécu en Égypte, au Ghana, et qu'elle a donc surtout écrit, lu, parlé, donné des cours, des conférences. En 2008, juste après l'élection de Barack Obama, dans un entretien au Nouvel Observateur, le journaliste disait à Maya Angelou, c'est historique, là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et elle répondait, on n'efface pas comme ça un passé de 300, 400 ans. Il faudra du temps pour défaire toutes les ignorances. Bon, elle est morte en 2014. On va pas jouer à ce qu'elle dirait des États-Unis de Trump et plus encore de Trump 2. Mais on sait, en revanche, ce que eux disent d'elle, Axel Janjike.
Oui, malheureusement, je sais pourquoi Chante l'oiseau en cage figure sur la liste des livres bannis par l'administration Trump. Donc, dans pas très longtemps, on ne pourra plus le trouver, en tout cas dans les établissements scolaires. Et il a figuré tout de suite sur la liste comme l'œil le plus bleu de Toni Morrison. Ça donne une petite idée de ce qu'elle
représente. Comme tous les grands livres sous les dictatures, en général, c'est plutôt une médaille, je dirais.
Moi, je le perçois comme ça.
Mais... Ouais, enfin, quand même, enfin, pour parce que là, on la lit en France depuis quelques années, mais c'est vrai que souvent, justement, quand on la présente, on dit en France, on la découvre encore un peu, mais aux États-Unis, c'est un monument national. Donc, c'est quand même.
Il y a toute une génération qui va peut-être pas pouvoir y avoir accès d'emblée. Mais c'est là aussi où la transmission va jouer et il va falloir trouver des moyens souterrains de la transmettre quand même et de transmettre quand même tous ces ouvrages.
On imagine que c'est pas pour ça que Segers l'a traduit et l'a publié, mais quand même il y a une nécessité peut-être de la lire dans le moment, dans le monde dans lequel on vit.
En tout cas, on peut constater que ce qu'elle raconte est d'une actualité extrême. Ça c'est clair. Après, en France, c'est vrai qu'elle est moins connue qu'aux États-Unis. Mais moi, aux États-Unis, je suis très très confiant. J'ai envie de dire, pour Trump, bonne chance, faire disparaître Maya Angelou de l'imaginaire noir américain, il y a du boulot, quoi. Donc, je pense pas qu'il va y arriver comme ça, quoi.
L'amour guérit et libère. En employant le mot amour, je ne parle pas de sentimentalité, mais d'un état si puissant que c'est peut-être ce qui maintient les étoiles dans le ciel et fait couler le sang en un flot régulier dans nos veines. C'est ce qu'écrit Maya Angelou dans l'avant-propos de Maman et moi et maman. Et l'on termine avec quelqu'un qu'elle aimait.
Say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart.
Simone, bien sûr, un grand merci à tous les deux. Santiago Artoski, nous lisons votre traduction de la poésie de Maya Angelou aux éditions Segers, avec donc un nouveau recueil à paraître fin août. Celui dont nous avons parlé plus particulièrement aujourd'hui s'intitule « Rien ne me fera plier ». Axel Janjike, nous lisons « Maman et moi et maman » dans une nouvelle édition révisée chez Notabilia avec votre préface. Je cite de nouveau également votre livre paru en 2022 au Diable Vauvert, journal intime d'une féministe noire. Grand merci à vous et merci à l'équipe des Midi, Léa Weiss, Grusnina, Gandarazo et Coupé, Lisa Dejode, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Jordan Fuentes.